O capeta.
Quels sont les avantages du dépistage volontaire? Je disais tout à l'heure que le dépistage volontaire du VIH-Sida fait souvent peur à certaines personnes et préfèrent ne pas connaître leur état sérologique et vivre dans l'ignorance. Et d'après les spécialistes, cette attitude est beaucoup plus remarquée chez les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels. Et pourtant, le dépistage volontaire présente plusieurs avantages. On va le découvrir avec Dr Didier Caméré, expert en VIH-Sida. Il est notre invité depuis la ville portuaire des Matadi. Dr Didier Caméré, bonjour.
Bonjour Jody.
Alors nous parlons aujourd'hui des avantages du dépistage volontaire. D'accord. D'abord, la première question, c'est quoi le dépistage volontaire du VIH-Sida?
Le dépistage volontaire du VIH-Sida, c'est une stratégie par laquelle nous passons pour connaître si nous sommes infectés par le VIH ou pas. Et ça passe par des conseils. Et puis on vous fait un test de laboratoire avec des tests bien appropriés au cours duquel on va vous dire si vous avez le microbe du VIH dans votre organisme ou pas.
Et pourquoi le dépistage fait peur à beaucoup de personnes qui préfèrent s'en abstenir?
La peur du test VIH, ça va vous demander de remonter toute l'histoire du VIH. Vous vous souvenez que vers les années 80, il n'y avait aucune solution par rapport à l'infection en VIH. Et les gens avaient adopté l'attitude selon laquelle je préfère ignorer si je suis infecté ou pas. Et lorsque la maladie viendra, ça va m'emporter, au lieu de vivre 5-10 ans avec une peur de mort imminente. Alors les gens ont développé cette attitude. Ça, c'est déjà dépassé parce qu'il y a maintenant plusieurs possibilités pour stopper les microbes dans votre organisme et, bref, bloquer l'arrivée du sida, maladie.
Voilà, est-ce que vous avez remarqué un changement dans les comportements des personnes? Est-ce que de plus en plus, il y a des gens qui vont se faire dépister ou pas?
Le taux d'acceptation du test VIH, là où il est offert, quand il est précédé des conseils bien dirigés, le taux d'acceptation du test VIH dans notre pays est supérieur à 90%. Bref, si on prend 100 Congolais au hasard et qu'on leur donne des conseils et les avantages liés au fait de connaître son état sérologique, plus de 90% acceptent le test VIH sans problème. Mais cela dépend aussi de l'extension des services de conseil de dépistage dans notre pays. Mais l'acceptation du test lui-même, lorsqu'il est bien motivé, il ne pose pas de problème lié à son acceptation.
Alors, parlez-nous à présent des avantages du dépistage volontaire du VIH-Sida.
Oui, je dis comme on l'a dit tout à l'heure, le test VIH est précédé par des conseils. C'est un moyen par lequel nous allons savoir si nous avons les microbes du VIH dans notre organisme ou pas. C'est très important de le savoir pour la bonne et simple raison, tous les moyens de prévention, c'est-à-dire si vous êtes négatif, pour qu'on vous dise comment éviter d'être contaminé, ne vont suivre qu'après le fait qu'on ait su que vous n'êtes pas infecté. Pour ceux qui sont positifs, pour qu'on leur donne les moyens pour éviter d'arriver au stade sida, on va rendre ces moyens à votre portée. On va vous les rendre disponibles à la seule condition que l'on saura que vous avez les microbes dans votre organisme. Donc vous voyez que le test VIH, précédé par ces différents conseils, constitue la charnière principale pour aller à la prévention du VIH ou à la prise en charge des personnes infectées par le VIH. Si vous n'êtes pas passé par le test VIH et qu'à votre insu, vous avez le microbe dans votre organisme, que vous le vouliez ou pas, il va vous amener vers le sida maladie. Donc, vous voyez toute l'importance dans la lutte contre le VIH de ce qu'on appelle le conseil dépistage. Ça constitue ce que nous appelons la charnière même de la lutte contre le VIH qui peut nous amener vers la prévention ou à la prise en charge. Sans test VIH, tout ce qu'on peut amener comme moyen de prévention, de prise en charge, ne servira à rien du tout.
Alors, docteur, vous avez dit tout à l'heure, avant de passer ces tests, il faut passer par des conseils, on doit vous parler. Alors, quelle est l'équipe qui est chargée de faire ce travail-là, de préparer les gens psychologiquement à accepter de faire ce test? Et quelles sont les informations qu'on leur donne? Comment les mettre en confiance, je veux dire?
Oui, je dis, le test VIH dans notre pays est précédé par des conseils. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on vous fasse le test VIH sans vous donner l'information qu'on va vous passer au dépistage. Et ces conseils sont suivis d'un ensemble de stratégies. Ça passe par plusieurs stratégies. En milieu de soins, par exemple, les infirmiers, les médecins vous proposent le test VIH. En milieu communautaire, il y a aussi des centres de dépistage et il y a des personnes qu'on appelle des conseillers. Donc, que ce soit en milieu communautaire, vous pouvez être ou non personnel soignant, c'est-à-dire vous pouvez être enseignant, vous pouvez être cultivateur, pêcheur. On va vous montrer les techniques pour amener la personne à surmonter son stress et à accepter le test VIH, à enlever toutes les idées négatives, les idées erronées qui tournent autour du VIH et à accepter de connaître si on est infecté ou pas. Bref, c'est un ensemble de moyens pour vous amener à surmonter le stress, des techniques appropriées, des communications, des, comme on dit en anglais, des counseling, c'est-à-dire vous amener à accepter quelque chose. Et c'est cet ensemble de techniques qui peuvent être faites par des personnels soignants dans les hôpitaux, ça peut être des médecins ou des infirmiers, des laborantins, des pharmaciens, peu importe. Ça peut être fait en milieu communautaire par un journaliste, n'importe qui. Donc ça ne demande pas une profession particulière pour conduire une séance de conseil pour le dépistage. Tandis que le dépistage lui-même, c'est un acte purement médical. Aujourd'hui, on le décentralise de plus en plus vers la communauté, par des moyens simples. C'est un peu comme, vous savez, le test de grossesse, il est de plus en plus décentralisé.
Oui.
Et le test VIH par le prélèvement au bout des doigts, qu'on appelle le finger prick, on est en train d'amener les acteurs communautaires à savoir aussi les manipuler. Et mais on doit se rassurer qu'il y a tout un dispositif médical qui accompagne tous ces analyses. Bref, le test en lui-même reste encore un acte médical, mais les counseling, les conseils qui précèdent le test, les conseils qui suivent le test, tout le monde peut conduire ces conseils.
Voilà. Et lorsque la personne passe le test, il semble que le résultat reste confidentiel. À qui révéler ces résultats-là directement? À la personne elle-même ou bien il faut en parler avec le médecin traitant?
Oui, l'un des principes clés en matière de conseils et de dépistage du VIH, c'est la confidentialité. La confidentialité, la personne qui a conduit votre test, il va faire le prélèvement. Lui-même peut faire le prélèvement ou peut vous envoyer au laboratoire. Au cas où il vous enverra au laboratoire, on va codifier. Donc, le laborantin n'aura pas la possibilité de connaître ni votre nom, ni tous les éléments liés à votre identité. C'est seul le conseiller qui a tous les éléments liés à votre identité et c'est à lui qu'on va retourner le résultat. Dans les cas de figure où c'est lui-même qui a conduit le conseil et c'est lui-même qui fait le prélèvement, la confidentialité reste où seul le conseiller a l'information sur votre état sérologique. Les rares situations où on arrive dans un cadre de confidentialité partagée sont des situations où ça nécessite une prise en charge collégiale. Et cette équipe-là est astreinte aussi à garder la confidentialité au sein de leur équipe. Donc, tous ces éléments, c'est pour aider les personnes à être sûres que les informations sur leur état sérologique ne vont pas circuler dans la rue parce que nous savons qu'il y a encore une forte charge émotionnelle, il y a encore un poids très important de discrimination, un point important de stigmatisation lié au VIH/SIDA et la règle de confidentialité s'impose à tous les prestataires qui pratiquent le conseil de dépistage.
Bien, Dieudonné Touloumé nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-63-94.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Quels sont les avantages du dépistage volontaire du VIH/SIDA? Dieudonné Touloumé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, ainsi qu'à l'invité.
Vous êtes à Kananga, quelle est votre question?
Merci de la parole, monsieur le journaliste. C'est depuis la nuit des temps que j'ai souffert avec cette préoccupation. C'est pourquoi je veux que notre invité me donne une réponse adéquate à cette dernière. Quel est réellement l'impact du dépistage volontaire pendant qu'on n'a pas encore eu le médicament efficace de la maladie en question? Car ce dernier révèle immédiatement la personne qu'elle est déjà atteinte et elle commence à s'en soucier puis développer encore d'autres maladies qui vont la nuire gravement, davantage encore à sa santé. Tout ceci, c'est faute du dépistage qui lui a révélé, n'est-ce pas, une maladie étant encore au début de son développement que le détenteur a pu le développer de lui-même. Alors, maintenant que l'invité a suivi avec intérêt ma préoccupation, qu'est-ce qu'il peut me dire? Merci.
Merci Dieudonné. Clément Mouya, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je voudrais un peu savoir et poser la question à l'invité. Quelle est la période d'incubation du virus de VIH c'est-à-dire que la personne est atteinte, peut-être, ou la personne est entrée en contact avec quelqu'un qui est séropositif ou séropositive aujourd'hui. Donc, quand est-ce que cette personne peut se rendre aussi compte, après le test, qu'elle est infectée? Et en dehors de ça, je voudrais un peu avoir des rassurances par rapport à la psychologie du malade qui vit sans dépistage et la psychologie du malade qui vit avec le dépistage où il est ressorti qu'il est infecté. Voilà un peu mes petites préoccupations pour notre invité.
Merci Clément. Docteur Didier.
Merci beaucoup. Dieudonné du Café nous demande l'impact du conseil dépistage. Alors qu'il n'y a pas de traitement, on va créer un poids psychologique cognitif chez la personne. Ce que notre ami Dieudonné du Café est en train de rapporter est un fait réel. Mais un fait réel que nous avons connu dans les cas de la lutte contre le VIH-SIDA il y a très longtemps. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous êtes séropositif, le problème, vos problèmes psychologiques, l'anxiété, les soucis vont faire que vous allez perdre l'appétit, vous ne mangez plus, vous allez maigrir, et tout cela va aggraver la situation du VIH qui circule dans votre organisme, qui crée aussi une certaine malnutrition. Mais aujourd'hui, je peux rassurer mon ami Dieudonné que nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Ça, c'était une situation que nous avons connue vers les années 80, jusque dans notre pays, vers les années 97-98. Mais depuis les années 2000, nous avons ce qu'on appelle les antirétroviraux. Les antirétroviraux, ce sont des médicaments qui empêchent ce microbe de se multiplier dans l'organisme de la personne qui est infectée. Le sida, c'est quoi? Le sida, c'est la multiplication de ces microbes dans votre organisme, il vous fait arriver à un stade très avancé où votre système de défense est incapable de se défendre contre d'autres microbes. Et cette situation, c'est ce qu'on résume un peu par ce qu'on appelle SIDA. C'est un ensemble de manifestations qui traduisent que votre système de défense n'est pas capable de se défendre. Les antirétroviraux auront pour action de bloquer la multiplication des microbes, bref, de ne pas vous amener vers la situation de SIDA. Vous allez vivre avec le microbe dans votre organisme comme une maladie chronique comme les autres que nous connaissons, le diabète, l'hypertension, mais sans aller vers la situation de maladie. Et ça, ça a un avantage important sur le plan psychologique parce que vous allez retrouver votre santé, vous allez reprendre vos activités et le problème psychologique qu'on connaissait avant l'avènement des antirétroviraux, vous n'allez pas le vivre. Donc nous insistons encore davantage sur le fait d'aller vers le dépistage parce que ça vous ouvre la porte vers l'accès aux antirétroviraux qui vont vous empêcher d'aller vers le sida. Clément Mouya, du Casse-Oriental, a demandé la période d'incubation du VIH dans l'organisme. Je vais vous donner deux situations de ce qui se passe dans notre organisme. Lorsque le microbe entre dans notre organisme, les tests usuels que nous avons l'habitude d'utiliser dans notre pratique courante, dans notre pays, ce qu'on appelle des tests rapides, vont signaler la présence des anticorps anti-VIH qui circulent dans notre organisme. Et on les détecte généralement après une période de 2 à 3 mois. Donc, avant cette période, si vous faites votre test VIH, il peut s'avérer négatif pour la bonne et simple raison que ces anticorps ne sont pas encore produits et nous appelons cette période une période fenêtre ou période muette. Les conseillers connaissent très bien cette phase-là et vous verrez qu'ils vont vous demander 2-3 mois après de revenir encore sous le test parce qu'ils savent que s'il y avait le microbe, il pourra déjà se manifester après cette période. Il y a tout un ensemble de conseils, des questions qu'on va vous poser pour connaître est-ce que vous avez eu un contact à risque qui pourrait vous exposer par rapport au VIH. À part la période dont j'ai parlé tout à l'heure, 2 à 3 mois après que vous ayez été en contact avec les virus, en attendant la production des anticorps, il y a ce qu'on appelle la période asymptomatique. C'est-à-dire, vous allez faire 2, 3 ans, 5 ans, même 10 ans, sans que vous ayez la manifestation de l'immunodéficience, c'est-à-dire de la manifestation du sida. Et ça, ça peut prendre 5-10 ans. Imaginez que vous avez été en contact avec les microbes, il s'est multiplié dans votre organisme, et vous faites 10 ans sans savoir que vous avez les microbes. Par rapport à votre comportement, vous pouvez contaminer les autres et propager ainsi le virus dans le monde et dans notre pays en particulier.
Alors, docteur Didier,
d'où la nécessité de faire le test.
Alors, cela veut dire que celui qui a la maladie, pendant plusieurs années, il peut faire le dépistage, mais ça n'indique rien, alors que la maladie est déjà là. Mais c'est encore la période fenêtre, comme vous le dites.
Non, la période fenêtre n'est pas en termes d'années. La période fenêtre n'est qu'en termes de mois, 2 à 3 mois. tandis que la période où la personne va vers la maladie, le sida, façon différenciant le microbe qui est le VIH et le sida qui est la maladie. La maladie intervient après plusieurs années. Et donc, si vous n'avez pas fait le test, vous avez les microbes dans votre organisme, vous serez ignorant que vous avez les microbes et contaminez les autres. Mais si vous êtes déjà au stade sida, cela suppose que vous avez déjà passé plusieurs années ou moins avec le microbe, le test sera positif parce que vous avez déjà développé des anticorps anti-VIH. La période fenêtre, c'est une période qui est liée aux tests que nous utilisons en santé publique. Ce sont des tests rapides qui ne recherchent pas le VIH lui-même, mais qui recherchent les anticorps dirigés contre le VIH. Et ces anticorps sont produits après 2 à 3 mois. Et donc, le conseiller va vous demander, si le test est négatif, revenez 2-3 mois après pour qu'on puisse confirmer votre séronégativité. Et pour compléter encore la question de notre ami Mouya, qui a demandé le poids psychologique du malade qui n'a pas fait le test VIH, et celui qui a déjà fait son test VIH.
Oui.
Je vais vous dire, Clément, celui qui a déjà fait son test VIH a tous les avantages. Le premier avantage, c'est qu'il a accès au service. Et le fait qu'on lui dise qu'il y a la solution, pas une solution en termes d'élimination du virus, mais une solution en termes de blocage du sida, qui est une maladie, une prise en charge médicale. Et cette personne qui n'a pas fait son test VIH, qui est déjà malade, c'est-à-dire qui a maigri ou qui fait une tuberculose ou qui fait un cancer lié au sida, etc., qui a des présomptions que cette maladie que je suis en train de développer, ça pourrait être le sida,
oui.
Et il ne veut pas aller au test. Vous imaginez bien que cette personne va vivre avec un poids psychologique, avec des culpabilités qu'il ne saura pas résoudre, alors que c'est lui qui est déjà au stade maladie et il s'est dit, bon, j'ai des éruptions cutanées sans explication, j'ai fait des fièvres à répétition sur plus de longs cours, j'aimerais bien faire aussi un test VIH pour savoir est-ce qu'il ne s'agit pas du virus qui serait à la base de cette faiblesse de mon organisme. S'il fait son test VIH, je vous rassure que juste après, il n'aura pas de problème psychologique. Parce que le conseiller qui va lui donner les résultats va d'abord lui assurer un soutien psychologique et après va lui donner toutes les options de solutions médicales qui sont maintenant à notre portée pour prendre en charge les affections qu'il a et bloquer la multiplication du virus.
Bien, quels sont les avantages du dépistage volontaire du VIH-SIDA? Roger Tiwabwa est à Kinshasa et Radi nous appelle de Kindu. Roger, bonjour. Bonjour Roger.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ben, j'ai juste une petite préoccupation que j'aimerais poser à notre invité.
Oui.
Ben, quelqu'un qui connaît déjà qu'il est infecté, ben, qui n'est pas soumis aux soins préventifs comme prévu, et cette personne, est-ce qu'elle peut être poursuivie par la justice ou bien comment?
Qui peut être poursuivi par la justice?
La personne qui est infectée. Donc, quelqu'un qui est allé se dépister, eh bien, il est séropositif, mais qui n'est pas soumis aux préventions, quoi.
Aux antirétroviraux.
Du blocage du VIH.
Non, vous dites que la personne passe le test et puis les résultats indiquent que la personne souffre du sida et après
ouais.
La personne n'est pas soumise au traitement
ouais,
aux antirétroviraux. Alors qui vous voulez dire qu'on peut poursuivre qui est-ce que vous voulez poursuivre à ce moment-là?
Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre la personne?
Laquelle?
La personne qui est infectée, mais à qui on a demandé d'être soumis aux soins.
Oui.
Qui a refusé les soins.
Ah, ok. Donc la personne passe les tests. Après, on lui demande d'être soumise à un traitement et elle refuse. Elle préfère vivre telle qu'elle. Ok, merci. On a compris.
Okay,
et Radi, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Je salue l'invité.
Quelle est votre question, Radi?
Bon, j'ai deux petites questions à l'invité, monsieur le président.
Oui.
Oui, ma première question, je demande à l'invité, est-ce que si une personne est tentée par la maladie de sida, est-ce qu'il y a manière aussi de la faire dépister ou non? C'est la première question.
Pardon, répétez s'il vous plaît.
J'ai dit ceci, si une personne est tentée par la maladie de sida, est-ce qu'il y a la possibilité de la faire encore dépister au niveau de l'hôpital? Pas.
Ok, si la personne est déjà atteinte, est-ce qu'il y a moyen de faire encore les dépistages à l'hôpital ou pas? D'accord?
Ah, oui. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Bon, par exemple, vous avez une voisine, hein? Bon, elle est atteinte par la maladie de Sultan. Bon, si vous partez, par exemple, au niveau de l'hôpital pour aller témoigner, ça que j'ai une personne, toi, tu as une tante comme ça, qui est atteinte par la maladie de Sultan. Est-ce que tu as tort ou pas? Ça, tu seras poursuivi par l'État.
D'accord. Merci. D'accord, merci Eradi. Docteur Didier Caméré.
Merci beaucoup, notre ami Roger
de Kinshasa.
De Kinshasa demande si une personne séropositive refuse les soins. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut le poursuivre ou pas? J'aimerais aborder sa question sur deux volets. Le premier volet, la personne est libre d'accepter ou de refuser les services qu'on lui offre au niveau médical. Et cette liberté ne lui donne pas le droit d'avoir un comportement à risque. Prenons le cas de figure où vous avez fait votre test de VIH, vous savez que vous êtes séropositif, et on vous dit, voilà, il y a des solutions sur le plan médical, il y a des molécules qu'on appelle les antirétroviraux, qu'on va vous donner et qui vont vous empêcher de devenir malade, parce que la maladie c'est le sida, mais vous n'avez que le microbe. Et vous dites, non, non, je n'ai pas besoin de tous ces médicaments, soit j'ai mon grand-père qui a des potions magiques, soit je vais recourir à la prière, il y a plusieurs possibilités, ces cas existent réellement. Et cette personne, s'il refuse, ok, nous prenons acte de son refus, des services qu'on lui a offerts, et surtout que ce sont des services gratuits. Mais si cette personne, au-delà du fait qu'il a refusé, adopte un comportement à risque, c'est-à-dire supposons qu'il se décide de se venger, comme disent quelques-uns, je vais retourner cette infection ou cette microbe d'où il est venu, il adopte un comportement moins sérieux, il a des rapports sexuels non protégés ou il a des pratiques qui exposent sa communauté ou ses voisins ou d'autres personnes à être contaminés, là il peut être poursuivi parce que c'est assimilé à un empoisonnement volontaire. Bref, c'est pour dire que les personnes qui sont infectées par le VIH ont des droits, droit à la santé. On a à leur disposition tous les moyens de soins que nous disposons actuellement, oui, sur le plan scientifique. Droit à la procréation, tous les droits leur sont reconnus, mais ils ont aussi des devoirs. Devoir de ne pas contaminer, devoir de vivre sainement, devoir de continuer à prendre ses responsabilités sur le plan communautaire. Et si vous refusez certains services qu'on vous offre, c'est de votre droit. Mais vous avez le devoir de ne pas contaminer les autres. Eradi à Kinshasa a demandé si vous êtes déjà au stade SIDA.
Oui.
Oui.
Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, demandé, faire le dépistage? Est-ce qu'il peut, quelqu'un qui est déjà au stade SIDA, peut encore aller faire le dépistage?
Oui. Si vous êtes au stade SIDA, on vous dira que vous êtes au stade SIDA avec certitude d'après un test VIH. On ne peut avoir que des présomptions. On a des manifestations qui peuvent simuler le VIH. Il y a plusieurs maladies, ce que nous appelons en médecine des diagnostics différentiels. Il y a plusieurs maladies qui peuvent donner les tableaux SIDA. Si vous allez dans la trypanosomiase, vous avez plusieurs cancers qui peuvent donner le même tableau que le VIH. Vous pouvez penser que c'est le SIDA, mais le seul moyen sûr pour savoir que vous êtes infecté ou pas, c'est de passer au test VIH. Donc, quand bien même vous serez à ce stade-là, le test est important. Et même si vous êtes au stade très avancé de l'infection à VIH, nous avons eu plusieurs patients qui étaient vraiment au stade dit terminal et une bonne prise en charge, une prise en charge globale a permis à récupérer ces personnes, à les remonter et à les rendre, ils étaient déjà alités, c'est-à-dire qu'ils ne savaient plus marcher. Ils ont récupéré toutes leurs fonctions et leur santé, la longévité même a été rétablie entre guillemets. C'est pour dire que même au stade SIDA, oui, je vous invite à passer le test de VIH parce que les solutions sont possibles.
Bien, une voisine est atteinte du SIDA et Eradi est au courant. Bon, est-ce qu'il peut aller informer soit à l'hôpital? Est-ce que s'il va, par exemple, donner l'information ailleurs, est-ce qu'il sera poursuivi ou pas?
Moi, je conseillerais à mon frère Eradi de revoir juste la façon de procéder. Si vous avez une voisine qui a des manifestations qui vous font penser au SIDA, parce que ce n'est pas avec le simple fait de regarder que vous allez confirmer que cette personne est infectée ou pas. ça peut nous amener à avoir une attitude de discrimination ou de stigmatisation pour rien. Ce n'est pas par le simple regard que vous allez dire, ah, nous pensons que telle voisine est affectée par le VIH, et pour protéger nos voisins, pour protéger nos enfants et autres, allons vite la dénoncer, entre guillemets, au centre de santé pour qu'on lui donne le traitement. Non, je pense qu'on mélange deux choses. Il y a la bonne intention et il y a aussi une attitude un peu de stigmatisation. Moi, je vous conseillerais d'approcher la personne et de lui dire que ce que vous avez comme manifestation, d'après la littérature ou d'après ce que j'ai suivi à la télé, ça nous ferait penser que vous avez des problèmes de défense de l'organisme. Est-ce que vous ne pourriez pas aller voir les personnes de santé pour qu'on sache est-ce qu'il n'y a pas un microbe qui serait à la base de cet affaiblissement de votre organisme? Là, la personne, de manière volontaire, parce que le test est toujours volontaire, ira volontairement demander son test de VIH. Mais pas à vous d'aller la dénoncer. Là, ce ne serait pas une bonne démarche. Si vous voulez vraiment aider cette personne et aider la communauté, oui, approchez-la et ça serait faire œuvre utile.
Salomon Kitembo, vous êtes à Bounia et Dr François Alanga à Lubumbashi. Salomon, bonjour. Bonjour Salomon. Salomon, vous êtes à Bounia, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne. Dr François Alanga de Lubumbashi, bonjour. Allô, docteur François? Voilà, docteur François n'est plus en ligne. Voilà, docteur Didier Caméré, on revient aux avantages du dépistage volontaire. Vous avez dit qu'il est important de faire ce test parce que ça vous permet de connaître votre état sérologique. Et si vous êtes malade, ça vous permet d'être soumis directement à un traitement. Et pour celui qui passe son test, il découvre qu'il n'est pas malade. Quel comportement adopter par la suite?
Oui. Si vous passez votre test VIH et que vous êtes négatif, le VIH, il passe par trois voies. Par la voie sexuelle, par la voie sanguine et par la transmission d'une mère infectée à son enfant. Et nous savons aujourd'hui que la voie principale par laquelle passe 90% des infections que nous avons dans le monde actuellement, c'est la voie sexuelle. Et par la voie sexuelle, on vous donne plusieurs options. C'est l'abstinence, c'est le préservatif, c'est la bonne fidélité réciproque. Et aujourd'hui, on augmente le test VIH. Connaître son état sérologique. Si vous passez par le test VIH, on va vous donner, au regard de votre mode de vie, parce qu'on va le personnaliser par rapport à votre mode de vie, on va vous dire, voici par rapport à vous, comment ne pas avoir le VIH, voici les comportements à adopter. Et si vous avez un comportement qui pourrait vous exposer au microbe VIH, on va vous dire, voici les moyens à utiliser pour que par votre comportement, que vous ne soyez pas infecté. Prenons l'exemple d'une professionnelle du sexe. Oui. Par sa profession, elle est exposée. On va lui dire, voilà, votre profession, au-delà des considérations juridiques, voilà, nous, acteurs de santé, ce que nous vous disons, ce qu'il faut faire pour ne pas être contaminé. Prenons l'exemple d'un homosexuel. Par votre pratique, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, nous savons que par la voie anale, les risques sont doublés, même triplés. Voici ce qu'il faut faire pour ne pas être contaminé. Bref, le passage dans un centre de conseil et dépistage va vous permettre d'acquérir l'information et aussi les moyens pour éviter d'être contaminé. Aujourd'hui, nous parlons des zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro discrimination, etc. Le chef de l'État a parlé d'une génération sans sida en RDC. C'est très bien et nous savons aujourd'hui que pour y arriver, il faut bloquer toutes les portes d'entrée de ces nouvelles infections. La première enfance et les jeunes.
Voilà. Alors, est-ce que le test, le dépistage volontaire est payant ou c'est gratuit?
Le conseil de dépistage dans notre pays est gratuit et volontaire.
Parce qu'on a appris dernièrement dans un reportage que quelque part, on fait payer les gens qui viennent à l'hôpital pour les dépistages. On leur demande quelque part de payer un peu d'argent.
Le pays reçoit plusieurs subventions par rapport au test VIH. Mais nous savons qu'il y a des centres privés qui achètent ces tests. Ils les achètent dans des officines et ils veulent récupérer les fonds mis pour acheter ces tests. Et si le coût qu'ils ont mis pour le dépistage équivaut à récupérer les fonds qu'ils ont mis en jeu, nous pensons qu'il n'y a pas de problème. Mais le principe est que le test doit être gratuit.
Bien, docteur Didier Caméré, expert en VIH-SIDA, intervenant depuis la ville portuaire de Matadi. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup, Jody. Bonne journée à vous.